C'est exact. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de politique. Et puis...
Soit même un discours un peu sérieux.
Il est grand, il est beau, il est fort. Il est roi et il le sait.
La nuit, au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route.
Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur le plateau de...
BTFM
sur le 91.2.
Sonolab. Le Sonolab. L'atelier des sons. Des projets sonores et radiophoniques réalisés avec des écoles, collèges, lycées, des établissements médicaux, sociaux, culturels, de loisirs de 6 ans à 166 ans. Le mercredi et le dimanche à 11h sur JetFM 91.2.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Color Radio, c'est mon patrimoine. Je suis Katerina.
Et moi, je suis Kathleen. Alors, pendant 5 jours, avec Halil, Joao, Nawar, Sankumba, Nariman, Maël, Luciana, Mohamed Ali, Sankun et Aya, nous sommes partis explorer le monde de l'archéologie afin de réaliser cette émission. Avec Laure, Maël et Morgane du Sonolab de JetFM, on a appris à utiliser des enregistreurs, à parler dans un micro, écouter nos voix, réaliser des interviews et à faire du montage. Grâce à l'équipe du chronographe qui avait privatisé le musée pour nous, on a eu tout le loisir de visiter les lieux et de réaliser des ateliers pour mieux comprendre le métier d'archéologue. Bon, certains étaient déçus car il n'y a pas de pyramide à Nantes et donc nous n'avons pas rencontré d'égyptologues ou voir des momies. Dans cette émission, vous allez revivre notre semaine avec nos chroniques et nos interviews. Avant de passer la parole à nos chroniqueurs, nous voulons remercier le dispositif C'est mon patrimoine qui a financé cette semaine de vacances radiophoniques. On laisse la parole à Maëlle, alias Marguerite, qui va vous raconter l'histoire du Ratiatum.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, moi c'est Marguerite. Ratiatum est le nom d'une cité des Pictons, un peuple gaulois qui se situait à l'emplacement de la ville actuelle de Rezé. Cette cité était essentiellement un port tourné vers la Loire, ce qui permettait un commerce actif, par exemple de vin, d'huile et d'autres denrées alimentaires. La cité a été créée à l'époque romaine et a connu son apogée au IIe siècle après Jésus-Christ. Par la suite, le bras de la Loire qui la longe s'ensable progressivement et la cité décline. Elle est plusieurs fois pillée et incendiée par les raids des Saxons et des Francs au IIIe et IVe siècle. Elle subit en outre la concurrence de Nantes, ville du peuple des Namnètes, qui croît à proximité. Ratiatum reste malgré tout une cité importante, au moins jusqu'au début du Moyen-Âge, son évolution historique restant encore un domaine d'étude. Des fouilles archéologiques ont permis de mettre en évidence les vestiges de la cité, comme un quai monumental de plus de 100 mètres de long, une cale à bateaux, des entrepôts et des ateliers. Le chronographe et ses alentours permettent aux visiteurs d'admirer les traces encore visibles de Ratiatum. Si vous vous intéressez à l'histoire de Ratiatum et plus généralement à celle de la région nantaise, je vous invite à aller visiter le chronographe et à vous documenter de manière ludique en feuilletant la bande dessinée Nantes de Saint-Félix à Gilles de Rais dans la collection L'Histoire dans l'Histoire aux éditions Petit à Petit.
Merci Marguerite, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en avez pensé du chronographe.
Alors pour ma part, donc l'ensemble donc chronographe et ses alentours me fait penser à la ville donc d'Ostie en plus petit. Donc pour rappel, Ostie c'est un vieux port à Rome.
Et les autres,
vous en pensez quoi?
Bah alors moi je m'appelle Mohamed Ali, je me présente. Moi franchement j'ai tout aimé au chronographe. Il y avait beaucoup d'ateliers. Avec Maud qui nous a encadré pour le chronographe, franchement c'était pas mal. On a interviewé des personnes, on a joué, on a mangé, on a fait beaucoup d'activités, franchement c'était pas mal. Voilà, je vais passer la parole à mon voisin.
Moi c'est Sankumba. Moi j'ai bien aimé tout, mais j'ai préféré les fouilles avec Elven. Elle nous a bien tout expliqué et c'était bien, c'était ludique.
Donc moi j'ai trouvé ça très intéressant, c'était super bien organisé. Et puis, c'était aussi très joli à voir. Et puis on a appris plein de choses, quoi.
Bonjour, je m'appelle Mohamed Ali. Moi et mes collègues Khalil et Sakumba, nous allons vous parler de l'atelier fouille au chronographe.
On a fait cet atelier avec Elven, une archéologue. On a fouillé dans deux bacs de terre où il fallait trouver des vestiges avec des outils d'archéologue comme la spatule, la pelle et le pinceau. On a trouvé un grand verre en terre cuite, une assiette et une amphore.
Pendant l'atelier, quand on a terminé de fouiller, on a essayé de deviner de quelle période venaient les objets de couleur. Les couleurs orange et rouge venaient dire qu'ils viennent de l'Antiquité et le vert signifie que ça vient du Moyen-Âge.
Elven nous a dit que pour chercher des vestiges, on devait avoir un équipement. On avait besoin d'un casque, une petite chose rectangle en mousse et un diplôme et l'autorisation de la mairie.
Ce que nous avons aimé,
quand on a fouillé,
c'est de trouver des vestiges.
Moi, j'ai surtout aimé les jeux et la tyrolienne.
Merci à Elven pour sa patience et son savoir
sur l'archéologie.
Justement, Luciana va vous présenter l'interview de l'incroyable Elven.
Oui les gars, alors je vais vous faire écouter l'interview d'Elven. Bonne écoute.
Bonjour Elven, est-ce que vous pourriez nous expliquer pour vous qu'est-ce qu'est l'archéologie ?
Alors bonjour, alors pour moi l'archéologie c'est une science qui permet de comprendre comment vivaient nos ancêtres avant, donc on va faire des fouilles pour découvrir des vestiges laissés par nos ancêtres. Le rôle d'un archéologue ça va être de découvrir donc les vestiges et de partager ses connaissances, ses découvertes au plus grand nombre. Donc on va pouvoir vous faire découvrir comment étaient nos ancêtres avant.
Qu'est-ce que vous faites de les os et des objets après les avoir trouvés ?
Alors les objets et les os sont déposés en laboratoire. Donc les os vont être étudiés par les archéo-anthropologues, donc ceux qui vont pouvoir nous expliquer si l'individu était un homme ou une femme, s'il avait des maladies, comment il est mort, à quel âge il est mort à peu près, et puis savoir s'il avait des problèmes, des petites carences aussi. Et les objets, après ça dépend des objets, s'ils sont métalliques ou céramiques. Par exemple, la céramique, tout ce qui est en terre cuite, va être étudié par les céramologues. Donc ils vont faire l'objet d'études, savoir la datation, et aussi ils vont être remontés pour pouvoir être exposés dans les musées pour les plus beaux. Donc il y a beaucoup de restauration après études en laboratoire aussi.
Avez-vous déjà vu une momie ou des personnes carbonisées de Pompéi ?
Alors, est-ce que j'ai déjà vu des momies ? Alors, malheureusement, non. Moi, je n'ai pas vu de momie. J'ai des collègues qui ont la chance de fouiller au Soudan, donc en ce moment, ils ont des momies. Mais bon, moi, je suis plutôt sur tout ce qui est squelette. Il n'y a plus rien dessus, quoi. Il ne reste que les os.
Est-ce que vous pourriez nous raconter une histoire ou une anecdote ?
La première découverte, c'était un fragment de terre cuite avec l'empreinte d'un enfant encore figé dans la terre cuite. Ça, c'est assez impressionnant parce qu'on a encore sa petite main. Bon, c'était de l'Antiquité, donc il était mort depuis longtemps, mais il y a toujours sa petite main qui est là. Ça, c'est assez impressionnant.
La trace de sa main ?
La trace de sa main, oui. Figée dans la terre cuite.
Bon, on vous remercie d'être venu à cette interview et nous vous disons à la prochaine fois.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Vous êtes bien sur Jet FM 91.2 sur l'émission Coloradio. Joao, je crois que tu as quelque chose à dire.
Bonjour à tous, je m'appelle Joao. Je vais parler, quand on trouve un or ou un trésor, on ne garde pas chez nous, on donne à un musée, ça appartient à tout le monde.
Merci Joao, nous vous proposons une pause musicale, on se retrouve juste après.
Archéologue, artisan, artificier, archétype, arpenteur des dossiers archivés. Artistes engagés, arrivant des quartiers nord. Argentés car ils ont pillé nos drogues. L'archange Gabriel retient notre argumentaire. Armée d'Afrique plus qu'armée, armure d'Arabien, spantère. Arcotique, un rapport fun, arithmétique. Au parcours d'Arafat, musique archéologique. Don't panic tape. Et le passé ressurgit après fouille. On a pris pour le son le grand Ramsès et sa dépouille. Les sarrasins sont dans les tours et les tours dégringolent. 11-09, c'est la sortie de l'école. Déjà parlé de ces choses, mais je le répéterai à vie. Le WT, c'est un tournant tard de nos vies. Ne comprends pas les regards dans les métros, dans les gares. L'aéroport de Kennedy m'a mis sur liste noire, noire. Comme le tableau que je dresse. Le drapeau de Guantanamo pour potentielle adresse. Agressé car on ne refait pas l'histoire. Mais décolle les souvenirs du fin fond de nos mémoires. Alors j'écris, ne le dis pas, mais le cri revendique. Au même titre l'Allemagne de Conakry. On a frappé du poing sur la table du rap. Et Médine est durable en période anti-arabe. Anti-électorale sont les voix d'aborigènes. Et quand on tend le miroir à la jeunesse sarkozienne, ils le brisent sur nos têtes et refusent notre identité. À croire que leur ancêtre l'avait prémédité. Et c'est ainsi qu'on assiste aux guerres de monde, reconstruction.
sont après l'étape, ils te bombent. Certains le vivent, d'autres l'écrivent, le racontent ou le chantent. Moi j'ai choisi de le rappeler pour les générations changeantes. C'est ma musique, sûrement dépourvue de logique, mais à la fois pleine de sens et d'études archéologiques. Hors des clichés, stylo souleveur de rochers, révèle la vérité cachée, sort du papier arraché. Archéologue, artisan, artificier, archétype, arpenteur des dossiers archivés. Artistes engagés, arrivant des quartiers nord. Argenté car ils ont pillé notre or. L'archange Gabriel retient notre argumentaire. Armée d'Afrique plus qu'armée, armure d'Arabiens spantaires. Arcotique, arabophone, arithmétique. Au parcours d'Arafat, musique archéologique. Deuxième couplet qui vient confirmer le premier. Comme un coup de marteau, soit un clou mal enfoncé. Rapparition d'MC en voie de disparition. Rap narration vient chiffrer les réparations. Médine, pour véritable patronyme. J'aurais pu très bien prendre un autre nom pour pseudonyme. Car c'est l'an 2000 et son bug, archéologue sur Skyblock. Nos prénoms résonnent dans les livres et dans les maisons de Scud. Dans les studios, les frères me donnent la réplique. Mes couplets sont réglés comme du papier à musique. On fait les choses à l'extrême pour arracher le galon. Mais le succès d'estime n'a jamais rempli le biberon. Lorsque les autres ont faim, on part chasser le gibier. N'attends pas le déluge, marche où tout le monde n'a pas pied. Indépendant, désintéressé du mouvement. Made in Records exécute le rap au moindre mouvement. Archéologue, artisan, artificier, archétype, arpenteur des dossiers archivés. Artistes engagés, arrivant des quartiers nord. Argenté car ils ont pillé notre or. L'archange Gabriel retient notre argumentaire. Armée d'Afrique plus qu'armée, armure d'Arabiens spantaires. Arcotique, arabophone, arithmétique. Au parcours d'Arafat, musique archéologique. Archéologue, artisan, artificier, archétype, arpenteur des dossiers archivés. Artistes engagés, arrivant des quartiers nord. Argenté car ils ont pillé notre or. L'archange Gabriel retient notre argumentaire. Armée d'Afrique plus qu'armée, armure d'Arabiens spantaires. Arcotique, arabophone, arithmétique. Au parcours d'Arafat, musique archéologique. Le rap français ne gère pas l'indépendance. Aussi vrai que le junkie ne gère pas sa dépendance. Dean Records, c'est le label au répondant. Hors des tendances, obligé d'être indépendant.
Vous êtes bien sur Jet FM 91.2. C'était Musique archéologique de Médine. Au début, on voulait mettre Booba, mais on a décidé d'être curieux. Et on a découvert Médine. Nous sommes les enfants de la Coloradio et nous allons passer à la chronique Tombée sur un os avec mes camarades Zazie, Marguerite et Colette.
Et oui, c'est exactement ça, Nisrine. Bonjour, et moi c'est Marguerite, je suis avec les enfants de la Coloradio. Bonjour les enfants.
Bonjour Marguerite.
Donc je vais maintenant laisser la parole à mes autres collègues autour de ce plateau.
Salut, moi c'est Katerina, alias Zazie.
Salut Zazie.
Yo, moi c'est Aya, alias Colette.
Yo Colette. Salam alaikum, moi c'est Nariman, alias Nisrine.
Alaykoum salam Nisrine.
Au cours de cette chronique, nous vous expliquerons ce que l'on a fait durant l'atelier tombé sur un os au chronographe. Nous étions dans une salle un peu comme dans un laboratoire. Il y avait deux squelettes. Le premier était très malade. Il s'appelait Oscar. On a dû l'ausculter. Oscar est venu avec son ami, Michel.
Salut. Oscar et Michel, tous les deux, aujourd'hui, vous nous aidez à aborder ce qu'on appelle l'archéo-anthropologie. Donc ce matin...
Sa colonne, elle est...
Oui, il a un petit souci. C'est pas grave.
Sur ce patient, nous avons placé le nom des six parties du corps humain. Les dents, le crâne, la mandibule, le fémur, les vertèbres, le radius et l'ulna. Ensuite, nous avons exploré le squelette d'Oscar et avons constaté qu'il avait eu beaucoup de problèmes de santé. Camille nous a appris comment raisonner pour savoir ce qui l'a tué. Nous allons vous expliquer les problèmes relevés.
Je vais vous expliquer le premier problème. Nous avons remarqué qu'il avait un trou sur le crâne. Camille nous a dit que c'était une commotion, un gros coup sur la tête. Mais cela ne l'a pas tué car le trou a cicatrisé.
Comment reconnaître la différence entre un trou cicatrisé ou pas ?
Alors en fait, c'est très simple. Si le contour du trou est lisse, alors ça a cicatrisé. Si le contour est rugueux, alors ça n'a pas cicatrisé.
Oscar avait aussi un problème aux dents, une grosse infection. On voyait un trou dans la mandibule. Il ne devait pas avoir un beau sourire, car les gens ne se brossaient pas les dents. Mais cela n'a pas causé sa mort non plus, car le trou était lisse.
Nous avons également constaté qu'il s'est cassé le bras Oui, Oscar n'avait pas de chance. À l'époque, les gens n'avaient pas de plâtre, du coup son bras était de travers. Cela pouvait être douloureux, mais pas la cause de sa mort.
Ses vertèbres lombaires étaient déformées. Oscar devait se tenir voûté ou courbé et avoir des douleurs. Mais cela n'a pas pu le faire mourir.
Au niveau de son col, de fémur, un côté était tout rongé. Cela ressemblait à un champignon. Camille nous a expliqué que cela était une tuberculose osseuse.
Alors Oscar avait de la tuberculose, maladie très répandue à l'époque et on en meurt encore aujourd'hui.
On a déduit que c'est la tuberculose qui a fait mourir notre pauvre Oscar.
Voilà, merci les filles, à bientôt. Et Camille a accepté de répondre à quelques questions après l'atelier, n'est-ce pas Sankoun ?
Oui, merci les filles pour ces détails sur l'atelier tombé sur un os. Nous avons posé des questions à Camille pour en savoir plus sur l'archéologie. Il nous a aussi dit que lorsque les archéologues trouvent un ossement, ils l'analysent chez un anthropologue. Camille nous a aussi appris que l'archéologie sert à comprendre les populations anciennes, savoir les façons de vivre et comment elles vivaient. Bonne écoute et à tout à l'heure.
Bonjour, nous sommes en direct du chronographe avec Camille et nous allons lui poser des questions. Pour vous, c'est quoi être en bonne santé ?
Être en bonne santé, on peut commencer par se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé ? Qu'est-ce qu'on appelle être en bonne santé ? Je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise, enfin s'il y a vraiment une bonne réponse, mais on peut peut-être commencer par le début. Être en bonne santé, c'est être capable de se déplacer, de se nourrir. Et finalement, quand on est en mauvaise santé, c'est peut-être à partir du moment où on a besoin des autres pour pouvoir vivre.
Pourquoi on s'intéresse à la santé des gens qui ont vécu avant nous ?
Sans parler de la santé, on s'intéresse aux gens qui ont vécu avant nous pour essayer de comprendre les populations du passé, comment est-ce qu'ils vivaient, comment est-ce que leur société était organisée. Ça nous permet de comprendre leur manière de vivre, de manger, de saisir vraiment encore mieux la population et la manière dont ils étaient organisés. Oui, voilà, essayer de comprendre de quelles maladies ils pouvaient souffrir, comment est-ce qu'ils se déplaçaient, de quoi ils vivaient, et quels problèmes ils avaient, puis aussi par effet miroir, de comprendre les problèmes qu'ils pouvaient avoir au Moyen-Âge, par exemple, comme on a vu avec les dents un petit peu plus tôt. Ben, nous, on prend conscience qu'on a de la chance aussi d'être au XXIe siècle et de pouvoir avoir des dents comme on les a tous aujourd'hui, ou les fractures comme on a vu. On a aussi de la chance, nous, de pouvoir, après une fracture, utiliser notre bras normalement, alors qu'au Moyen-Âge, un petit peu plus compliqué.
Pouvez-vous nous raconter une histoire, une anecdote ?
Alors, d'en parler d'archéologie, alors, quand j'étais en chantier de fouilles, quand j'étais étudiante, à l'université de Nantes, on était sur un chantier de fouilles en Vendée. Et alors on fouillait, c'était la chose la plus belle, je crois, que j'ai jamais vue. On fouille archéologique, on fouillait l'entrée dans un ancien village donc du début, enfin, de la fin du néolithique, de la toute fin de la préhistoire, vers moins 3000, moins 2000. Et on fouillait vraiment l'entrée, donc il faut imaginer des grandes barrières, des grands talus en pierre, en terre. Et juste, nous, on était vraiment à l'entrée de ce village. Et donc, ces fortifications, il y avait juste un endroit pour que les gens puissent passer. Et on était arrivés sur le niveau de sol sur lequel les gens marchaient à cette époque-là. Et en fait, ils avaient mis plein de petites graviers de plein de couleurs différentes. Donc ça, c'était sur le dessus. Ensuite, en dessous, ils avaient mis des pierres un peu plus grosses. Mais sur le dessus, ils avaient fait vraiment ces petits graviers de couleurs différentes. Et quand on a arrosé avec un petit peu d'eau, on a vu toutes les couleurs de ce sol. Et de se dire qu'il y a des milliers d'années, les gens ils marchaient à cet endroit-là, que c'était un endroit super important. Et nous, on est là, 4000 ans plus tard, en train de transpirer dans la poussière et d'être tout ému par ces petits cailloux.
Merci pour cette interview.
Merci à vous.
Au revoir.
D'être venu au chronographe, ça nous fait très plaisir de vous avoir ici. J'espère que vous reviendrez.
Vous êtes bien dans l'émission Coloradio de GTFM. C'était l'interview de Kaby. Nous avons beaucoup aimé discuter avec elle. Elle nous a appris plein de choses sur les maladies et le métier d'archéologue. Nous la remercions. Maintenant, Luciana et Aya vont vous raconter l'histoire de squelettes.
Bonjour, je m'appelle Luciana.
Et moi, c'est Aya.
Nous allons vous parler de la comtesse Anne d'Allègre.
Enfin, surtout de son crâne.
La comtesse Anne d'Allègre vivait au XVIe siècle.
Elle avait une maladie des os.
Du coup, elle perdait ses dents.
Car oui, les gencives sont bien des os.
Du coup, elle n'avait pas un sourire très joli.
C'est pas le top pour une comtesse ?
La comtesse est allée voir un barbier. Et oui, autrefois, les médecins s'appelaient les barbiers.
Ah bon ? Ça, je ne savais pas.
Le barbier lui a fabriqué des dents avec de la corne de cerf polie.
Et après, il l'a accrochée avec un fameux fil d'or.
un fil d'or ?
Oui, le fil d'or est le seul métal qui ne rouille pas. L'opération s'est bien passée, c'était assez balèze à l'époque.
Mais est-ce que toutes les personnes pouvaient avoir un appareil dentaire ?
Non.
Pourquoi ?
Car ils étaient en or et seules les personnes riches pouvaient s'acheter ça.
Comment les archéologues ont-ils deviné ça ?
Ils ont compris ça en étudiant son crâne sous tous les angles et ont fait ce qu'on appelle une hypothèse.
Mohamed Ali et Khalil ont posé d'autres questions à Pierre pendant notre visite.
N'est-ce pas, Mohamed Ali ?
Exactement, les filles. J'ai interviewé Pierre avec Khalil. J'ai demandé à Pierre de nous raconter une histoire de squelette comme il les racontait très très bien. Attention, ça va être gore.
Je voulais te poser une question, c'était... Est-ce que vous pouvez nous raconter, comme vous racontez très bien les histoires, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de squelette ?
Une histoire de squelette, donc une histoire qui fait peur ?
Oui, voilà.
Pourquoi ? Ah, alors ça, c'est une toute autre histoire de squelette. Et alors là, vous allez dire, ah, c'est gore. Quand elle est morte, est-ce que vous connaissez, alors c'est une question très difficile, est-ce que vous connaissez la religion principale en France à l'époque ? Que tout le monde était obligé presque de suivre.
Le christianisme.
Christianisme, et plus spécifiquement à l'intérieur du christianisme, on appelle
le catholicisme.
Et au 15e, 16e siècle, dans le christianisme, il y a des catholiques qui se sont dit, on n'est pas tout à fait d'accord de la manière dont se passe le catholicisme. On trouve que les prêtres, ils ont quand même trop d'argent. On trouve qu'ils ont perdu de vue les choses les plus importantes dans le catholicisme. Et se sont dit, on va faire une autre religion. Est-ce que vous connaissez le nom de cette autre religion au 15e, 16e siècle ? Protestantisme, c'est exactement ça. Et Anne d'Alègre, elle était protestante. Donc à votre avis, est-ce qu'elle avait le droit d'être enterrée avec les catholiques dans les cimetières ?
Non.
Non. Et elle a été enterrée dans sa chapelle privée. Et lorsqu'on l'a enterrée, à l'époque, c'est arrivé que pour les personnes vraiment très riches, on fasse quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire qu'on embaume le corps. Qu'est-ce que c'est embaumer un corps ? C'est pas le découper exactement. C'est l'enterrer, mais avant de l'enterrer, on fait quelque chose. On le scie, mais c'est-à-dire qu'on vide l'intérieur du corps, toutes les viscères, c'est-à-dire l'estomac, le cœur, le foie, la rate, on les enlève, on garde juste la peau, et à l'intérieur, comme les momies d'Égypte, on met des plantes, des herbes aromatiques qui vont permettre d'assécher le corps à l'intérieur pour éviter qu'il pourrisse, et de conserver le corps en meilleur état, en enlevant toutes les choses qui pourrissent le plus. Et donc, pour enlever le cerveau, qu'est-ce qu'on a fait ?
Ils ont
pris une scie de l'époque et ils ont scié le corps, le crâne, sur toute la longueur pour ouvrir comme un chapeau, enlever le cerveau.
Ah,
mais ils faisaient ça sans gants. Ah bah, pas forcément très agréable, je pense, pour ce qu'ils faisaient. Mais Anne était déjà morte, hein, je vous rassure, quand même.
Oui, mais du coup, son cerveau, il est tout mort.
Ah bah, ça, oui, je vous ai dit que ça allait être un peu gore, hein. Je vous ai prévenu, hein. Donc, ils ont enlevé le cerveau, ils ont remplacé par des herbes à la place. Et ce qui est intéressant, c'est que les archéologues, lorsqu'ils ont retrouvé le corps, ils l'ont retrouvé dans un cercueil en plomb, très très long. Et le plomb, c'était aussi très rare pour l'époque d'avoir un cercueil en plomb. Et par-dessus, j'ai pas la photo, là, faudrait que je la retrouve, il y avait une petite boîte en forme de cœur. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte, en forme de cœur ? Sur le cercueil, il y avait son cœur. Mais il avait disparu parce qu'il s'était complètement asséché, et il avait complètement disparu de l'intérieur de la boîte. Et en ouvrant le cercueil en plomb, ils ont trouvé son squelette, avec encore à l'intérieur du ventre des traces de ces herbes et de ces plantes aromatiques qui avaient servi pour l'embaumement. Pardon ? Parce que c'est beaucoup trop fragile, on les a enlevés. Et il restait vraiment presque rien parce que les petits rongeurs sur 6 siècles ont eu le temps de quand même manger les plantes, etc. Oui ? Comment ils ont fait pour rentrer ? Bah, c'est les bactéries, c'est pas forcément des insectes, c'est des larves, c'est tout petit au début, ça mange et puis après ça repart. Ou ça meurt à l'intérieur. Pardon ?
Normalement, t'es propre. Pourquoi t'as des bactéries ?
Alors, à l'intérieur de votre corps, vous avez plusieurs milliards de bactéries qui vivent et sans lesquelles vous ne pourriez pas digérer, par exemple. Le lait, on peut le digérer parce que depuis la naissance, vous avez dans votre estomac des bactéries qui aident le corps à digérer le lait. Elles vont casser les chaînes de protéines du lait et elles vont permettre à votre corps de l'utiliser comme énergie. Si vous n'avez pas ces bactéries, et il y a des gens dans le monde qui ne les ont pas, eh bien, ils deviennent intolérants au lactose et ils sont très malades. Voilà. Et donc, on a des milliards de bactéries dans le corps tout le temps et partout.
Tu la prendras en maison
ouais. Et sans ça, Ton corps, il peut pas survivre. Et ça veut pas dire que tu es sale. Des bactéries, il y en a partout et elles servent tout le temps. Pour faire le fromage, c'est des bactéries qu'on utilise.
Mais alors, ça veut dire le squelette, il est toujours là.
Le squelette, il est toujours là. Le squelette, en ce moment, il est dans un musée. Et il y a la personne qui l'a trouvé là, il a 84 ans, et il l'a trouvé en 1987, le squelette. Et pour la première fois, ils vont le montrer au public, et donc il est en train de remonter tous les morceaux. Là, vous voyez sur la photo, il a fait ça la semaine dernière, il y a plein de petites poches en plastique. C'est tous les os du corps humain, que vous avez vu sur la table là-bas, bien accrochés. Ben là, ils sont dans plein de petites poches parce qu'il n'y a pas de fil de fer pour les accrocher. Il n'y a plus rien qui les raccroche. C'est les vrais de Anne d'Allègre, là, sur la photo. Mais elle est où la tête, elle est où la tête d'Anne d'Allègre sur la photo? Elle est là.
Est-ce qu'il va la partir la prendre
À la fin de l'exposition, on leur rend la tête et ils vont la mettre avec le squelette.
Oui. Et là, ça, c'est le vrai.
C'est le vrai crâne.
Vous êtes bien sur JTFM 91.2 dans l'émission Colo Radio, c'est mon patrimoine, avec Makélé.
Salut Kathleen.
Salut Makélé. Alors, mercredi, nous avons eu la chance de visiter la réserve archéologique de Nantes Métropole. Normalement, cet endroit est interdit au public. Il n'est même pas géocalisé pour éviter les cambriolages. Et donc nous, dans le cadre de la Colo Radio, avons eu cette immense chance de le visiter.
Frédéric Mercier, je m'occupe du site de la Morinière. Donc de l'équipe... Ah, il y a un micro. L'équipe archéologique de la métropole de Nantes. Donc c'est nous qui faisons toutes les fouilles. Et puis je vais vous laisser un petit peu avec des collègues qui vous expliquent un petit peu ce qu'on fait ici, ce qui s'y passe. Voilà. Vous êtes allé au chronographe déjà ?
Oui.
Donc vous savez plein de choses, déjà c'est pas mal. Mais là vous allez voir des trucs encore plus... des trucs bizarres.
Au cours de cette visite, des professionnels nous ont présenté leur lieu de travail en nous expliquant également leur métier. Pour commencer, les archéologues nous ont montré une vaste salle dans laquelle se trouvaient plusieurs étagères occupées par des ossements humains, des tessons de vases, d'amphores et de plusieurs autres ustensiles de cuisine datant de l'époque romaine et de l'époque médiévale.
Les objets retrouvés sont nettoyés dans un grand lavabo, puis sachés et rangés dans des sacs dans une grande salle avec des grands bacs où sont rangées les découvertes. Plus tard, les trouvailles seront étudiées minutieusement par un anthropologue.
Voilà, vous voyez, il dispose le mobilier, il prend des mesures, des photographies s'il y a besoin. Le mobilier est aussi pesé et tout ça, c'est rentré dans une base de données. Donc ensuite, Guillaume va pouvoir faire une étude sur les objets qu'il aura étudiés. Une fois que cette étude elle est terminée, bah, les objets, en fait, on a besoin de les conserver. Bêtement, ça veut dire de les ranger dans un endroit où on va pouvoir y avoir accès facilement pour venir chercher des informations complémentaires, croiser les données avec d'autres types de recherches. Et donc, on va séparer tous les matériaux.
Et dis-moi, Makélé, quel moment as-tu préféré ?
C'est bizarre quand j'ai touché les os humains.
C'était la première fois, j'imagine. Effectivement, j'ai trouvé ce moment très étrange aussi.
Tout à fait. Et toi, quel moment as-tu le plus apprécié?
Lorsque je suis tombée sur un crâne de vache, ça m'a fait tout drôle. On a eu la chance d'interviewer Camille et Mathieu, qui travaillent là-bas. N'est-ce pas son combat?
Tout à fait. Avec Khalil, Kathleen, Aya et moi, nous leur avons posé quelques questions. Je vous laisse avec l'interview. À plus tard.
Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes en direct des fouilles archéologiques de Nantes Métropole. Et mes collègues et moi allons interviewer deux archéologues du nom de Camille et de Mathieu. Nous avons préparé une série de questions.
Depuis combien de temps vous êtes archéologue ?
Moi, je suis archéologue depuis 4 ans. J'ai terminé mes études à la fac de Nantes en 2015. Et là, ça fait bientôt 2 ans, il me semble, que je travaille au service archéologique de Nantes Métropole.
Alors moi, ça fait une quinzaine d'années et ça fait presque 10 ans que je travaille au service de Nantes Métropole.
Qu'est-ce que c'est que l'archéologie ?
C'est une grande question. Vous imaginez, maintenant que vous avez visité tous nos lieux de travail, vous avez bien vu qu'on étudie en fait les civilisations, les hommes et leur vie dans le passé. Donc notre rôle, c'est ça, c'est d'étudier la vie des hommes dans le passé, la manière dont ils vivaient. La différence avec l'histoire, c'est que ce qu'on appelle l'histoire, l'archéologie, c'est une forme aussi d'histoire, mais ce n'est pas fait avec les textes, les archives, les textes anciens qu'on garde. Là, c'est fait avec les objets, les restes matériels, on appelle ça. Donc tous les objets que vous avez vus, c'est vraiment ça, le matériau de l'archéologie.
Quel est le rôle d'un archéologue ?
Alors, c'est un petit peu, ça découle aussi de la première question. Le rôle de l'archéologue, c'est justement de faire ses fouilles, d'étudier sur le terrain les sites qu'il découvre, mais c'est aussi après, comme vous le venez de le voir là dans ses bureaux, c'est d'étudier tout ce qu'il a trouvé, et puis d'en faire après un rapport, d'en écrire un texte pour expliquer ce qu'il a trouvé, et puis après aussi de pouvoir le diffuser, le raconter au public, c'est-à-dire à vous, à vos parents, à vos familles.
Et on a aussi une mission qui est très importante, c'est qu'une fois qu'on a sorti donc tous ces objets des sites archéologiques, c'est du patrimoine, ça nous appartient à tous. Donc il faut qu'on soit très rigoureux et qu'on le conserve correctement pour pouvoir le transmettre aux prochains archéologues et aux prochaines générations qui passeront derrière nous pour qu'ils aient toujours accès à toutes ces informations-là.
Vous choisissez ce métier ?
J'ai choisi ce métier parce qu'évidemment j'avais une affection particulière pour tout ce qui était histoire, archéologie, j'aimais beaucoup visiter des musées, ce genre de choses. Mais j'ai longtemps hésité avant de choisir... des études à suivre et j'ai trouvé que c'était un bon mélange de tout ce que j'aimais bien, par exemple la photographie, le journalisme, l'histoire, le dessin. Tout ça, c'est des techniques dont on a besoin quand on est un archéologue et qu'on va mettre en œuvre pour bien faire notre métier.
Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans l'archéologie, c'est aussi que c'est un métier qui est à la fois un métier où on réfléchit beaucoup, on a des choses à écrire, mais aussi un métier où on est beaucoup sur le terrain, en train de fouiller, de faire des choses physiques. Donc c'est un métier que je trouve assez complémentaire, ni trop enfermé au bureau, ni trop dehors.
C'est quoi ce que vous préférez dans votre métier ?
Ce que j'aime beaucoup dans ce métier, ça rejoint ce qu'a dit Mathieu, c'est qu'en fait, il faut être assez polyvalent, donc à la fois être un bon scientifique pour faire du travail de bureau, de la rédaction, du dessin, mais aussi le fait d'avoir la chance de travailler en extérieur et aussi d'être parmi les premières personnes qui redécouvrent en fait les sites archéologiques. On est les premiers à avoir accès à tout ce patrimoine-là et je trouve que c'est une chance. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans mon métier.
Pouvez-vous nous raconter une histoire ou une anecdote ?
Moi, il n'y en a qu'une qui me vient. C'était sur mon premier chantier archéologique, donc la toute première fois que j'ai fait donc un stage de fouille, puisque la première fois qu'on va sur un chantier, souvent on est stagiaire bénévole. J'avais été assez impressionnée quand j'ai trouvé mon premier objet. En fait, c'était une dent humaine. Et ça m'a fait, à l'époque, vu que j'étais assez jeune, je ne sais pas, je devais avoir 17 ans, 18 ans, quelque chose comme ça, ça m'a fait un petit peu bizarre parce que j'avais l'impression de voir le sourire de la personne. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la dent était la seule partie du squelette humain qu'on voyait de notre vivant. En fait, quand on regarde un squelette, on voit sur le crâne qu'il y a les dents. Et de notre vivant, cette partie du squelette-là, on peut la voir. Ça m'avait vraiment marqué au début.
Est-ce que vous êtes déjà allé dans une pyramide en Égypte ? Si oui, qu'est-ce que vous avez trouvé ?
Malheureusement, j'ai pas encore visité l'Égypte. Mais alors, il y a aussi quelque chose qu'on peut dire à propos de ta question qui est intéressant, c'est que vous avez peut-être compris que les archéologues, ils connaissent pas mal de choses, mais ils sont obligés d'être spécialisés. Dans une matière, dans un domaine, parce qu'évidemment, c'est très compliqué de connaître tout sur toutes les civilisations du passé dans le monde entier. Donc, par exemple, on disait tout à l'heure, Camille, elle est spécialisée dans le traitement du mobilier. Moi, je suis spécialisée sur le Moyen-Âge. Annabelle, elle est spécialisée sur l'époque des Gaulois, ce qu'on appelle la proto-histoire. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas tout connaître et tout fouiller. C'est pour ça qu'on est aussi un petit nombre avec chacun des spécialités.
Pourquoi, en vrai, vous prenez les os de certains cimetières ?
Alors, on en a déjà parlé tout à l'heure en regardant justement les ossements. Alors, la première raison, et c'est la majorité de notre travail, c'est ce qu'on disait, c'est que nous, on fouille et on prend les objets, on fouille les sites et on prend les objets d'endroits qui vont être détruits, où les objets risquent d'être détruits parce qu'il va y avoir une construction d'une maison ou l'aménagement d'une route ou des travaux de construction qui vont détruire le site archéologique. Donc notre travail, c'est de venir avant que le projet se fasse, que les choses soient construites et le site détruit, et de pouvoir sauvegarder toute cette connaissance et tous ces objets. Ce qu'on peut dire aussi, parce que je pense que c'est un peu le sens de la question, tu as sans doute l'impression qu'on va déranger les morts, qu'on ne les respecte pas. Et au contraire, c'est quelque chose qui est très important pour nous. C'est aussi un certain respect qu'on a pour eux, de les étudier, tu vois, et de bien les traiter, plutôt qu'ils finissent dans la benne d'un camion.
Merci beaucoup à Camille, Mathieu, Khalil, Sankouba et Aya.
Merci.
De rien.
Merci.
C'était très intéressant et j'espère qu'on pourra de nouveau se revoir.
Avec plaisir.
À vous les studios.
Vous êtes bien sur JetFM 91.2. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en avez pensé de cette visite au centre archéologique de Nantes.
Quand on a touché les os, ça a fait bizarre. T'as touché des vrais os, par exemple de corps. Bah après moi, ça fait bizarre.
Bah après franchement c'était bien parce que on a eu l'opportunité de voir des os et ça c'est pas l'opportunité de tout le monde. Voilà, je passe la parole à mon voisin.
Moi j'ai bien aimé quand on a touché les os. C'était bien l'interview aussi, j'ai bien aimé interviewer Mathieu et Camille.
J'ai bien aimé tomber sur un os. Archéologue, artisan, artificier,
archétype, arpenteur des dossiers. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
Merci aux chronographes Maud, Elven, Camille, Pierre et les archéologues Camille et Mathieu de nous avoir parlé de leur métier.
Et merci aux chroniqueurs.
Vous pouvez nous réécouter dimanche à 11h
ou en podcast sur www.sonolab.fr. Bonnes vacances!
Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de politique.
Sois-même un discours un peu sérieux sur le futur.
Il est grand, il est beau, il est fort, il est roi et il le sait.
La nuit, au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route.
Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur le plateau de
JetFM
sur le 91.2.
Retrouvez toutes les réalisations du Sonolab sur www.sonolab.fr ou sur le site de JetFM www.jetfm.fr ou encore en direct tous les mercredis et dimanches à 11h sur le 91.2.